Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka, avec aujourd'hui une invitée, Aline Voineau, pour Mathilde et Napoléon, d'Alliance en trahison. C'est paru dans la collection Vent d'Histoire aux éditions de Boré. Et j'avais déjà eu le plaisir, il y a quelques mois, de vous accueillir pour le premier tome de cette saga historique, Mathilde, Juliette, Bonaparte et les autres. Dans le premier tome, nous étions sous le consulat. Là, c'est l'Empire qui va nous occuper. Pourquoi cet intérêt pour la figure de Napoléon Bonaparte ?
Ah, alors ça c'est la question. En fait, je suis née en 1967, donc j'étais la réformabie. Et dans cette réforme, on apprenait en cours d'histoire Bonaparte en même temps, Napoléon Bonaparte, en même temps que l'Empire romain. Et ce, en sixième et en seconde. Et deux fois, j'ai fait l'Empire romain et on n'a jamais fini le programme et j'ai donc jamais étudié Napoléon Bonaparte.
Donc vous êtes frustré.
Et voilà. Et donc, moi, après, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'histoire, parce que je suis pharmacien au départ. Et je me suis aperçue que les médecins, les pharmaciens, les dentistes, quand on a fini nos études, on a appris plein de choses, mais rien, ni en littérature, ni en histoire. Et donc, quand j'ai voulu commencer à apprendre et à lire un petit peu des choses pour me cultiver dans ce domaine-là, j'avais lu la série Des Fortunes de France de Robert Merle, et il s'arrêtait aussi juste avant Napoléon. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut vraiment que je trouve un moyen. Voilà. Et donc, j'ai cherché un livre qui était dans la continuité de Robert Merle. Et j'en ai pas trouvé, et c'est comme ça que je l'ai écrit. Donc j'ai lu beaucoup, beaucoup sur cette période-là pour bien maîtriser la période historique et ensuite pouvoir m'en extraire pour écrire un roman historique qui se passe à cette époque-là.
Aline Voineau, je disais que ce roman est centré sur l'Empire, mais il débute à la toute fin du consulat avec un événement qui est souvent occulté, mais que je crois majeur dans l'histoire de France. Le 2 mai 1804, la France vend aux États-Unis d'Amérique la Louisiane. Et ce n'est pas rien, c'est un tiers à peu près du territoire actuel des États-Unis.
Oui, la Louisiane de notre époque, enfin de cette époque-là, pardon, ne se limitait pas à la Louisiane de notre époque, qui est un simple État, quoi. Alors qu'à l'époque, il y avait une bonne dizaine d'États qui étaient concernés, et c'était un territoire qui était essentiel pour les Américains de pouvoir conquérir, parce que il avait accès à la mer et permettait aux États intérieurs américains de pouvoir avoir un accès côté Atlantique. Donc les Américains ont très très bien négocié, on leur a un peu vendu, comment dire, on s'est fait un peu avoir sur ce coup-là parce que on leur a vendu pas cher la Louisiane et ils n'ont d'ailleurs pas payé tout ce qu'ils nous devaient. Voilà, donc bon, ça a été. C'est pour ça que les Américains ont toujours dit que les Français seront des alliés éternels. Nous le sommes encore, mais voilà, les États-Unis s'est un peu formé grâce à cette vente de la Louisiane par Napoléon en 1804.
Et Bonaparte était persuadé de faire un mauvais coup à l'Angleterre.
Oui, parce que de toute façon, comme disait Napoléon, si jamais on ne l'avait pas vendu aux Américains, les Anglais nous l'auraient volé, entre guillemets. On était tout le temps en bisbille avec eux, et donc c'est vrai qu'on n'avait pas su protéger Saint-Domingue. Et donc Napoléon se disait, on ne sait pas protéger nos territoires outre-mer, ou en tout cas qui sont loin de la France, donc autant le vendre, comme ça appartiendra aux États-Unis, qu'ils la défendront, et comme ça les Anglais ne l'auront pas.
Votre roman, Aline Voineau, est une formidable galerie de portraits. Alors, il y a des figures féminines, je pense à Juliette Récamier, à Germaine de Staël, la fille de Necker, mais il y a aussi Jean-Jacques Régis de Cambacérès, qui est le numéro 2 de l'Empire, l'archi-chancelier, sans oublier Philippe de Ségur, pour ne citer que quelques-unes de ces figures remarquables qui apparaissent au fil des pages de votre roman. Comment les avez-vous choisies ? Parce qu'on aurait pu évoquer mille autres visages de l'Empire.
La frustration de ne pas pouvoir tout dire quand on écrit un roman historique, elle est réelle. Donc on choisit des personnages qui vont en accord avec la romance que l'on veut aussi écrire, mais ce sont aussi quand même les personnages, vous trouverez entre deux tomes, vous avez une centaine de personnages qui ont fait la France à cette époque-là. Et il se trouve que ce qui était très amusant, c'est que qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en fait tous se connaissaient parfaitement. Ils s'aimaient, ils se détestaient, ils couchaient entre eux ou au contraire, ils se mettaient des bâtons dans les roues. Donc ça a été quelque chose qui a été une découverte pour moi. Il y avait un vrai réseau social à l'époque.
Une vraie promiscuité.
Et voilà, mais un vrai réseau social en fait. Hein. Et ce qui est intéressant de voir quand on écrit les tomes suivants, c'est de s'apercevoir que ce réseau social se transmet génétiquement, si je puis dire, parce que les enfants sont eux-mêmes amis des enfants, des amis des parents, si vous voulez. Voilà, donc on les retrouve au fil des siècles. Voilà, et comment est-ce que je les ai choisis ? C'était vraiment ceux qui ont fait la France à cette époque-là.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Nous rendons hommage aujourd'hui à Françoise Hardy qui vient de nous quitter. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès. C'était en octobre 1964, Mon ami la rose.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invitée aujourd'hui, Aline Voineau, pour le roman historique qu'elle publie dans la collection Vent d'Histoire aux éditions de Boré, intitulé « Mathilde et Napoléon, d'alliance en trahison ». Alors Mathilde, c'est le seul personnage inventé pour les besoins du roman. Il s'agit de Mathilde de Cambacérès, l'épouse de Jean-Jacques Régis de Cambacérès que j'évoquais précédemment, qui fut l'un des grands parlementaires de la Convention, qui fut le deuxième consul après le coup d'État du 18 Brumaire et qui devient l'archi-chancelier d'Empire, c'est-à-dire le second de Napoléon. C'est à lui que Napoléon confie le pouvoir chaque fois que les obligations militaires le conduisent hors de France.
Exactement, exactement. Et alors vous dites que je l'ai choisi comme époux de mon héroïne de fiction pour la simple et bonne raison que Jean-Jacques Régis de Cambacérès était homosexuel Et
il a eu quand même deux épouses.
Non, il n'a jamais été marié, je vous explique. Cambacérès, étant homosexuel, n'avait donc pas d'épouse, et ça embêtait bien Napoléon, qui, au sommet de l'État, voulait mettre un petit peu d'ordre, voulait que chacun marie sa préférée, quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que Talleyrand a dû épouser la personne qu'il fréquentait, enfin, tous, ils ont dû faire ça, Berthier, etc. Et pour Cambacérès, donc, lui qui était donc homosexuel, il lui avait demandé de choisir, et donc il avait choisi, mais il ne l'avait pas épousé, une comédienne qui, je pense, elle aimait les femmes. Voilà. Et c'est pour ça que, justement, dans le Code civil, hein, que dirigeait Cambacérès, dans la rédaction du Code civil, l'homosexualité en France n'était pas reconnue comme un délit jusqu'à Pétain. Voilà, c'est à partir de Pétain qu'il y a eu cette définition, enfin, qu'on a considéré que l'homosexualité était un délit, mais à l'époque de Cambacérès, il avait bien fait attention que ça ne soit pas considéré comme tel, ce qui était, je pense, une bonne chose, mais voilà, bon, après, on y a remédié depuis, mais c'est pour ça que la France a été très
tolérante,
voilà, avec l'homosexualité.
Mathilde de Cambacérès, que vous présentez comme un esprit très ouvert à la science en particulier.
Oui, oui. Alors Napoléon, dans mon livre, demande, vous savez, c'était l'époque des salons. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait des salons littéraires. Et dans ces salons, on parlait souvent en politique. Et en particulier le salon de Juliette Récamier ou de Madame de Staël, qui était très politisée et qui était contre Bonaparte. Parce que c'était des femmes très libérales au sens libéraux politique du terme, hein. Les libéraux étaient anti-bonapartistes. Bref, il avait demandé à Cambacérès à ce que sa femme tienne un salon qui ne soit pas politique. Et donc, elle a réfléchi à ce qu'elle pouvait faire et elle s'est dit « je vais faire un salon des sciences ». Et ainsi, on peut voir toutes les découvertes qui ont été inventées au fil de ces années-là. Et on est au début de l'époque industrielle, au tout début de l'époque industrielle. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces découvertes.
Alors, au fil des chapitres de votre roman historique, Aline Voineau, ce sont les grands événements de l'histoire de l'Empire qui s'égrènent, à commencer par... les troupes massées au camp de Boulogne avec une idée, envahir l'Angleterre.
Oui, ça, Napoléon aurait rêvé de ça, envahir l'Angleterre, parce que les Anglais ont été ses éternels rivaux. Donc il avait massé toutes ses troupes face à l'Angleterre, mais les Anglais qui avaient vu ça et qui, bien entendu, n'avaient aucune envie de voir débarquer tous ces militaires, a organisé, si vous voulez, une coalition... avec les Autrichiens, la Prusse, etc., les Russes, pour que Napoléon soit attaqué par son est, par l'est de la France, et donc que toutes ses troupes soient détournées de l'Angleterre. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a marqué la victoire d'Austerlitz, parce que Napoléon a surpris tout le monde dans sa rapidité de réaction, où, ayant entendu parler de cela, il a pris les devants et il a fait marcher ses troupes en attaquant ceux qui croyaient être attaqués, quoi.
Et vous... dérouler le fil de l'histoire jusqu'à la chute de l'Empire, c'est-à-dire la première abdication, celle de Fontainebleau en avril 1814. Vous revenez bien évidemment sur la campagne de Russie, vous revenez sur les grandes batailles napoléoniennes, en particulier Wagram. C'est un cours d'histoire napoléonienne que vous présentez à travers ce roman.
Oui, j'ai essayé de l'écrire de façon assez ludique pour qu'on puisse le lire sur la plage. Vous voyez, c'est apprendre l'histoire autrement. C'est vrai que ce livre est assez riche en anecdotes. La présence de Mathilde et de toute la petite histoire dans la grande histoire fait que, oui, il y a en arrière-scène tous ces grands événements qui font que ça permet de remémorer à ceux qui l'ont appris ou à découvrir à ceux qui ne le connaissent pas l'histoire française, mais de façon, je dirais, voilà, ludique, plaisante et agréable. On fait ça de façon détendue.
Et vous développez un événement qui n'est pas toujours bien expliqué lorsqu'on étudie l'Empire, c'est l'accession au trône de Suède d'un des maréchaux de Napoléon, Jean-Baptiste Bernadotte, qui va devenir le roi Charles XIV après avoir été adopté par Charles XIII. Vous pourriez revenir sur cet épisode qui est quand même tout à fait intéressant parce que la dynastie qui est actuellement Suédoise, sur le trône de Suède procède de ce maréchal originaire du Béarn.
Voilà, voilà, les héritiers de la couronne de Suède aujourd'hui sont toujours de la lignée Bernadotte. D'ailleurs, le fils de Bernadotte, Oscar, épousera la fille d'Eugène de Beauharnais, c'est-à-dire les enfants, le fils de Joséphine. Vous voyez, le frère de la mère de Napoléon III. Enfin bon, tout cela, quand on lit le roman, on les reconnecte tous.
Et Bernadotte avait épousé la première fiancée de Napoléon, Désirée Clary, qui était elle-même la belle-sœur de Joseph Bonaparte.
Exactement, exactement. Vous connaissez parfaitement les choses, monsieur.
On est en famille.
Voilà, voilà. Donc oui, c'est intéressant de voir. Alors, il y a eu Pau, la ville de Pau, les Palois ont donné deux rois, Henri IV et Bernadotte. Et c'est extraordinaire la façon dont Bernadotte a été adoptée par le roi de Suède qui n'avait pas d'enfant. Il avait adopté un premier prince allemand qui, je crois allemand, je ne veux pas dire de sottise, mais qui est mort dans un combat. Bref, donc du coup, ils se sont retrouvés à nouveau sans héritier. Et Bernadotte, qui avait dû, à un moment donné, sur l'ordre de Napoléon, attaquer la Suède, avait été assez bienveillant parce qu'il y avait une guerre civile en Suède. Et Bernadotte avait dit « on n'attaque pas un pays qui est en guerre civile ». Donc il s'est dit « je vais attendre de voir ce que cette guerre civile va donner ». Soit c'est l'opposé à la France qui remporte cette guerre civile et dans ce cas-là j'attaquerai. Soit c'est Charles XIII qui va la gagner et lui est plutôt pro-français. Et dans ce cas-là, ça sera inutile d'attaquer. Donc en souvenir de cela, Bernadotte a été le favori, si vous voulez, pour que le roi de Suède favorable à la France qui a gagné cette guerre civile, entre guillemets, soit parmi les en tête de liste, si vous voulez, des adoptions. Et c'est comme ça qu'il a accepté, avec l'accord de Napoléon, qui a plus accepté parce qu'il n'avait pas trop le choix, Napoléon, de donner son accord à ce que Bernadotte soit accepté. Et il est devenu roi de Suède quelques années plus tard, à la mort de son père adoptif.
Vous avez raison de rappeler, Aline Voineau, que la Suède, qui est aujourd'hui un pays placide, était très tourmentée politiquement à cette époque et que la violence était exacerbée. Le comte de Fersen, qui fut, on le sait aujourd'hui, l'amant de Marie-Antoinette, a fini trucidé en pleine rue de Stockholm.
Oui, 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 exactement. Vous savez, à l'époque, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, les révoltes de villes, les guérillas sont de toute façon toujours très sanglantes.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent. Je vous retrouve ensuite, Aline Voineau, pour poursuivre cette conversation. Nous rendons aujourd'hui hommage à Françoise Hardy qui vient de nous quitter. Nous écoutons un titre de 1962, Le temps de l'amour.
Et de l'aventure, quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur.
le bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient.
Parmi les personnages que vous mettez très largement en évidence dans ce roman, il y a Germaine de Staël, qui est la fille de Jacques Necker, l'un des principaux ministres de Louis XVI, un banquier helvétique, protestant. Et Germaine de Staël va toujours entretenir une position complexe vis-à-vis de Napoléon. Elle est fascinée par le jeune Bonaparte qu'elle découvre au tournant du XIXe siècle, et elle va être violemment hostile à Napoléon.
Oui, ça a été vraiment la non-rencontre, je dirais, entre Germaine et Napoléon. Germaine de Staël, en fait, était une fille unique. Je pense qu'elle a été extrêmement choyée. Je pense que le monde tournait un peu autour d'elle. Et elle a voulu séduire Bonaparte. Elle était très intellectuelle. Et Napoléon, lui, aimait plutôt les femmes bonnes mères de foyer, bonnes épouses, faisant des enfants et s'occupant d'eux, et pensant un peu comme leur mari. Et donc, quand Germaine de Staël avait demandé à Napoléon qu'est-ce qui fait qu'il aimerait une femme plus qu'une autre, et il avait répondu « celle qui fera le plus d'enfants ». Donc, c'était vraiment pas la réponse qu'attendait Germaine de Staël. Donc, ça a été la première. Elle a essayé de le séduire, mais elle n'y est jamais arrivée. Séduire intellectuellement, mais elle n'y est jamais arrivée. Et ensuite, elle était la maîtresse de Benjamin Constant, qui était un des opposants majeurs au tribunal de Napoléon, qui était un libéral. Et donc.
Il finira par rejoindre durant les 100 jours.
Oui, alors ça sera l'histoire du tome 3, c'est ce que je suis en train d'écrire.
Très bien.
Mais effectivement, il était aussi un peu arriviste, hein, quelque part, ce Benjamin Constant. Donc quand Napoléon, par l'intermédiaire de Juliette Récamier, lui a proposé d'écrire l'acte additionnel, si vous voulez, il n'a pas dit non. Et pour Napoléon, c'était pour montrer qu'il arrivait après l'île d'Elbe de façon beaucoup plus libérale que ce qu'il ne l'était en partant, avant sa première abdication, j'entends. Disons que Constant a apporté là une caution, si vous voulez. C'est un peu pour ce pourquoi il l'a choisi. Mais voilà, donc Benjamin Constant et Germaine de Staël étaient des opposants à Napoléon, et dans les salons, on n'arrêtait pas de faire de l'anti-bonapartisme, et ça, Napoléon ne le supportait pas, et c'est pour ça qu'il l'a envoyé en exil pour s'en débarrasser. Comme il dit, vous êtes suisse, vous n'avez rien à faire en France si ma politique ne vous plaît pas.
Et elle va s'installer au bord du lac Le Mans, au château de Copé, où elle va vivre donc en grande partie avec Benjamin Constant. C'est une femme d'esprit qui nous laisse des ouvrages tout à fait remarquables, en particulier son essai intitulé « De l'Allemagne », qui reste aujourd'hui encore une référence.
Tout à fait, « De l'Allemagne », 10 ans d'exil, Napoléon et Germaine de Staël, 10 ans d'exil, c'est aussi vraiment super. Vraiment intéressant à lire. Après, il y a Corinne, enfin, il y a tout. C'était le début du romantisme, donc...
C'est peut-être moins abouti.
Oui, oh, c'est... Bon, c'est...
Alors, je vous donne mon sentiment personnel. Hein.
C'est sûr que c'est daté, je vous l'accorde. Mais c'est... Voilà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en revanche, c'est 10 ans d'exil.
Tout à fait. C'est un vrai document historique.
Vraiment plaisant à lire aujourd'hui encore, quoi.
Et puis, autre figure, c'est Juliette Récamier, autre femme de lettres.
Oui, Juliette Récamier, alors elle, c'était la muse. On peut dire que c'est la première star, Juliette Récamier, parce que c'est la première à avoir voulu maîtriser l'image de son corps à travers les peintures qu'on pouvait faire d'elle. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Juliette Récamier qui se trouve au Louvre où elle est sur un récamier.
Oui, oui, comme tout
ça
à fait.
Et ensuite, voilà.
Qui est en dans fait une un pose fini, nonchalante.
Voilà. Qui est en fait une peinture non finie de David. Mm-hmm. Et ils se sont frités tous les deux, ils se sont engueulés parce que Juliette n'acceptait pas. Donc en fait, M. Récamier avait commandé un portrait et David avait dit on ne peut pas faire un portrait de vous sans vous montrer tout votre corps. Donc on va le faire en format paysage et non pas en format portrait. Alors déjà, ça, c'est là un peu surprise. Mais surtout, il a montré ses pieds nus. Et Juliette Récamier n'était pas du tout d'accord pour qu'on puisse montrer, sans son accord, ses pieds nus. Et donc, elle lui a fait la remarque, l'autre s'est vexé. Et du coup, il a dit, bon, ben, puisque c'est ça, j'arrête là, on le reprendra. Puis ils n'ont jamais repris. Voilà, donc c'est une petite anecdote qui est assez amusante sur le tableau du Louvre de Juliette Récamier.
Juliette Récamier qui a épousé son père.
Voilà, qui a épousé son père, en fait.
Alors ça, c'est quand même singulier.
Elle l'a su le jour de son mariage. En fait, c'était, vous savez, à l'époque de la Révolution, les têtes tombaient. Et Jacques-Rose Récamier était l'amant de la mère de Juliette, Madame Bernard, et était très riche puisqu'il était banquier. Et comme il était, sur suite d'une dénonciation, je passe les détails, pensait passer à l'échafaud dans les jours qui suivaient, s'est marié avec sa fille naturelle pour pouvoir transmettre l'héritage. Sauf que il n'est pas passé sur l'échafaud. Et voilà, donc ils se sont retrouvés mariés tous les deux. Et Juliette, par respect sans doute pour cet homme qui l'aimait tendrement de façon paternelle, ils n'ont eu que des relations, je dirais, de père-fille, hein, c'est-à-dire sans inceste du tout, est restée longtemps liée à M. Récamier jusqu'à sa double faillite où, là aussi, ce sera le thème du tome 3, Chateaubriand va passer par là.
Alors, autre figure féminine de l'Empire qui, je dirais, a défrayé la chronique par ses aventures sentimentales, c'est Laure Junot, la duchesse d'Abrantès.
Tout à fait, qui était mariée avec Junot la Tempête, qui était un soldat qui avait commencé par être secrétaire de Napoléon à Toulon, parce qu'au siège de Toulon, l'un des premiers postes où s'est fait remarquer en tant qu'artilleur Napoléon, il a demandé qui sait écrire. Donc Junot s'est manifesté, c'est comme ça qu'il a connu Junot. Et donc Laure s'est mise à écrire un peu plus tardivement, n'a eu pas forcément un mariage très heureux avec Junot, qui était un grand séducteur. Et donc elle a écrit plutôt dans la seconde partie de sa vie. Et celui qui lui a mis un peu la main à la plume et qui lui a un peu appris à écrire, vous devez le savoir parce que je vois que vous connaissez bien tout, ben c'est ni plus ni moins que Balzac.
Oui, dont elle a été la maîtresse.
La maîtresse, voilà, qui a sans doute écrit ou aidé à écrire ou bien revu en tout cas les trois premiers tomes.
Et elle finit dans la plus absolue des misères.
Oui, oui, oui. Bon, ben, elle devait pas être. Elle devait être un petit peu.
Dépensière.
Fantaisiste, voilà, fantaisiste, oui. Dépensière. Et donc, elle n'a pas su s'occuper de son argent. Mais vous savez, Balzac n'était pas non plus un très bon. Financier.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il est criblé de
dettes. Oui, non, puis il s'est lancé dans des entreprises assez aventureuses sur le plan économique.
Voilà.
Il y a un personnage qui est peu connu, mais que vous mettez en évidence, je dirais, d'une manière pas nécessairement très indulgente, c'est le ministre du Trésor, Barbé-Marbois, que vous présentez comme un total incapable.
Ah ben là, ce sont les mots de Cambacérès. Bon, il ne devait peut-être pas être aussi incapable que ce que je le dis, mais il faut reconnaître que, regardez, pendant la vente de la Louisiane, nous étions donc en guerre avec l'Angleterre. Qu'est-ce que fait Barbé-Marbois ? Il convainc, donc les Américains qui n'ont pas assez d'argent pour acheter la Louisiane, décident qu'ils vont faire un emprunt. Et il convainc Napoléon de faire cet emprunt à une banque anglaise. Alors que nous étions en guerre avec eux, comme si la France n'avait pas pu, et elle avait des banques qui auraient pu le faire, comme si la France n'avait pas pu... C'est une ineptie, c'est tellement pas malin d'avoir fait ça, c'est la naïveté française face à la malice anglaise, quoi, si je puis dire. Donc oui, non, il ne devait pas être... pas forcément pas très futé, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'il ne devait pas oser s'interposer avec Napoléon, il devait, voilà.
Ce qui n'était pas chose évidente.
Hein. Oui, non, c'est pas chose évidente.
Napoléon est quand même un caractère très dominant.
Je suis d'accord, mais un Cambacérès, ça veut dire non. Enfin, ça veut en tout cas faire en sorte de ne pas faire ce qu'il ne fallait pas faire.
Oui, mais Cambacérès était absolument indispensable à l'empereur. Donc
oui,
il savait qu'il avait une marge d'appréciation parce que l'empereur ne pouvait pas se passer de lui.
Mais c'est là où on voit les grands hommes et ceux qui le sont moins.
Ah, c'est certain, c'est certain. Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent et je vous reprends, Aline Voineau, pour terminer cette conversation. C'est toujours l'hommage à Françoise Hardy. Nous écoutons un titre de 1966, peut-être l'un de ses plus beaux, « La maison où j'ai grandi ».
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus. Ils savaient rire, tous mes amis, ils savaient si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. J'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire. Et il me semble que je m'entends leur dire: je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires.
Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité Aline Voineau pour le roman historique qu'elle publie aux éditions de Boré dans la collection Vent d'Histoire. Mathilde et Napoléon, d'alliance en trahison. C'est le deuxième tome d'une saga consacrée à l'époque napoléonienne. Le troisième est en cours de préparation, me disiez-vous il y a quelques instants, et je vous lance déjà une invitation pour le présenter dans cette émission lorsqu'il sera publié. J'aurais une question, je dirais, de méthode historique et littéraire. Vous n'êtes pas historienne, vous l'avez dit, mais vous êtes une passionnée d'histoire et en particulier de la séquence napoléonienne. Comment menez-vous vos recherches ? Parce qu'il faut une solide documentation pour élaborer un roman historique aussi précis.
Alors, ce qu'il y a de bien quand on travaille sur la période napoléonienne, c'est la quantité incroyable d'écrits qui correspondent à cette période. Chantal Prévost, qui est la bibliothécaire de la Fondation Napoléon, a fait un calcul et en fait, il y a 2,5 livres par an, vous vous rendez compte, qui sont sortis depuis la mort de Napoléon. C'est énorme. Attendez, quand je dis par an, non, c'est même plus. Non, c'est bon.
Je crois que c'est un peu plus si on prend, je dirais,
Non.
Toute la séquence napoléonienne et pas seulement l'empereur lui-même.
C'est 2,5 par jour. C'est phénoménal, de toute façon. C'est absolument incroyable tout ce qui est sorti sur Napoléon. Et c'était une époque où les mémorialistes, tout le monde faisait ses mémoires. Donc, vous avez les mémoires, c'est-à-dire une même scène, vous l'avez retranscrite par 10 à 12 personnes différentes. Mmh. En général, ils disent tous la même chose. Il y a quelques petites variantes, parfois. Mais voilà. Donc, ma première source, ce sont les mémorialistes. Ensuite, il y a les historiens. Et c'est vrai que la Fondation Napoléon est un outil absolument incroyable parce qu'il y a beaucoup d'historiens dans cette maison qui écrivent sur Napoléon, sur le mémorial, sur toujours des ouvrages d'actualité où on fait un comparatif entre ce que faisait Napoléon et ce qui sert toujours de Napoléon et comment l'actualité s'entremêle avec l'actualité passée. Voilà, donc il y a énormément d'informations. Donc il faut commencer par beaucoup lire, beaucoup, pour pouvoir vraiment bien maîtriser une période et après s'en extraire pour écrire de la petite histoire dans la grande histoire. Mais une chose qui est sûre quand même, c'est que moi je reste plutôt une romancière qu'une historienne. Je fais une vraie différence entre les historiens qui sont... Nous travaillons sur le travail des historiens, voyez-vous ? Voilà, nous sommes des romanciers, alors donc je peux faire des fois, même si dans le premier tome, Thierry Lenz, qui est le président de la Fondation Napoléon, a bien dit c'est historiquement impeccable, je m'attache à être la plus précise possible, parce que ça me désole de voir des films comme celui qui est dernièrement sorti de Ridley Scott.
Ah oui, là, on est à côté de la plaque.
Voilà, où on réinvente un Napoléon, alors que quand on connaît un peu l'histoire et la vie de Napoléon, on n'a rien besoin d'inventer, sa vie est un roman déjà.
Oui, puis vous lire est plaisant et on apprend beaucoup. Vous apportez des informations très précises à travers des notes de bas de page en particulier, ce qui n'est pas chose fréquente dans les romans historiques.
Je m'y attache. Et alors, ce que j'ai fait en parallèle, que je ne promeux pas encore trop, mais que je vais commencer à promouvoir, c'est que j'ai fait un site internet en tapant aline.voineau, enfin aline-voineau, vous le trouvez, un site internet où vous pourrez découvrir tous les personnages, donc une centaine de personnages de cette époque, qui sont dans les deux tomes. Et vous pourrez voir comment est-ce qu'ils vieillissent à travers les différents tableaux d'eux qui ont été faits, où est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Europe. Quels sont leurs écrits, leurs œuvres, leur réseau social de l'époque, enfin, etc. Et donc, du coup, cela permet de voir, à travers tous les tableaux qu'il y a partout dans le monde, de mieux connaître encore ces personnages.
Aline Voineau, comment écrivez-vous ? Vous utilisez l'ordinateur, je présuppose.
Ah oui, j'utilise l'ordinateur, voilà.
Et vous écrivez le matin, le soir, le week-end. Vous avez besoin de larges plages horaires pour rédiger les chapitres de votre livre ou vous prenez quelques séquences quand votre emploi du temps le permet ?
Alors, depuis que j'ai vendu ma start-up, j'ai un peu la possibilité et le luxe de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, quand j'écris vraiment intensément, c'est-à-dire que je travaille 12 à 14 heures par jour, non-stop. Voilà, et en gros, il me faut une semaine par chapitre pour pouvoir écrire. Mais ça, c'est quand j'écris, je fais encore de la recherche ces jours-là, mais j'aurais fait en amont tout le travail de recherche, c'est-à-dire que pendant quelques mois, j'aurai ma pile de lecture avec tous les livres dont je vous ai parlé, tous les mémorialistes, tous les historiens, voilà, qui me permettent de lire et de découvrir les différentes anecdotes qui viennent enrichir la grande histoire, parce que c'est aussi à travers les anecdotes qui fait que c'est justement, comme vous dites, assez ludique de lire Et on retient d'autant mieux une histoire quand on y met un petit peu de piment à travers toutes ces petites anecdotes qui sont souvent assez ou amusantes ou en tout cas fascinantes.
Aline Voineau, merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je rappelle le titre du tome 2 de votre saga, Mathilde et Napoléon, d'Alliance en trahison. C'est paru aux éditions de Boré dans la collection Vent d'Histoire. Et je prends date déjà pour vous inviter à la présentation du troisième opus de cette saga, ça sort dans combien de temps ?
Oh là, je pense qu'on va prendre là. Les deux se sont suivis à un an.
Oui, c'était assez court.
Voilà, assez rapide. Là, je vais prendre un peu plus de temps. Je pense que ça sortira d'ici un an et demi plutôt. Voilà. Et sachez que, en même temps que la sortie du tome 2, le tome 1 sort en format poche.
Ah, très bien.
Qui fait que c'est un prix tout à fait modique, 8,50 €, je crois. Voilà, pour le format poche. Donc, ça. Pas s'en priver.
Et sans dévoiler l'intrigue, le tome 3 va porter sur le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, l'épisode des 100 jours.
Voilà, il va porter sur les 100 jours. Au départ, je voulais faire les 100 jours et la deuxième restauration, enfin la partie Louis XVIII, mais je crois qu'il s'est passé tellement de choses dans ces 100 jours qu'il y a de grandes choses que ça se passe sur les deux fois 100 jours, c'est-à-dire les 100 jours de Napoléon et les 100 jours qui ont suivi Napoléon. Je vais voir comment je vais arriver à imbriquer tout ça parce que il s'est passé tellement d'événements que soit on veut le faire bien et dans ce cas-là, il faut mettre un peu plus de temps et donc je pourrais aller moins vite que ce que je pensais faire au départ. Voilà, pour l'instant, je pense que ça va être les 200 jours, en fait.
C'est une période très intense de l'histoire.
Oui, exactement.
En tout cas, merci mille fois pour cet entretien. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Françoise Hardy. Nous écoutons un titre de 1968, Comment te dire adieu.
Au revoir.
Au revoir.